Mon très cher Zen,
Mon très cher ancien,
on dit quoi, ça va?
ça va,
En cette
oh
heure
oh
tardive.
oh, ça
Ouais.
va, ouais.
Ah ouais, carrément quoi.
Ouais,
Tu
ça va.
t'es habillé en rouge ou quoi?
Ah non, mais attends, comment t'as deviné?
Oh!
Avant que tu me poses la question, tu vois, j'ai mis un parfum de circonstance.
Bah oui,
J'ai
quoi.
mis habit rouge, dress code en plus, tu vois.
C'est pour ça que je dis ça. Propre. Très
Voilà,
propre.
virus dress code des Guerlains. Ça faisait longtemps que j'avais pas porté ça. Je me suis dit, bon, tu connais mon sens de l'humour. Hein, tu vois, je me suis dit, ah bah tiens, c'est marrant.
J'avoue.
Je suis gros, je suis barbu. Ah bah, je vais mettre ça,
Voilà.
tiens.
Il y a pas tout à fait le même teint, mais bon, après,
Ouais, bon, c'est pas grave.
si t'es un peu malade,
Tu
ça
vois,
passe,
c'est bon.
quoi.
Hein. La pony tout le temps, ça va 5 minutes. Hein. Au soleil, un peu.
Ah ouais. On a un très cher invité, le fameux Son John, le revenant. Ça va ou quoi?
Bonsoir, bonsoir mes chers. Ravi d'être là, à travers les sommités du podcast et de la critique de parfumerie.
Ah, oh,
Lol,
la sommité,
lol. Vous aimez
voilà.
bien le mot sommité?
La sommité, non, mais vraiment.
Incroyable.
Ouais, c'est terrible. C'est terrible hein, ce que les gens pensent de. Tu vois, certaines personnes ils pensent de
Ah ouais.
nous.
Le mec fait ho 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 et on ose l'appeler sommité.
Sommité. Bon, après, tu vois, oh, ouais, bah, si... dans le ciel, traîneau, tout ça, tu vois. Ah bon.
D'accord, ouais, j'avoue,
Ouais.
ok, je note, je note. Attends, je note. Là, c'est très
Voilà.
pique.
Voilà.
On porte quoi, Son John, là? Ça dit quoi?
Ce soir, on est sous cuir, on est sous-marin. Je porte Iron Duke de Beaufort London.
Ah oui.
Eh ouais.
Ouf,
C'est
ça.
une marque que j'ai découverte chez Sens Unique à Paris
Ouais.
et qui fait des parfums sur la thématique des navires anglais, etc. Donc il y a pas mal de notes métalliques. Cuiré. Franchement, j'aime bien parce que le vendeur, il me disait, ouais, c'est une des seules marques de laquelle on peut la qualifier de fuligineuse. Moi, j'ai hoché la tête, mais je connaissais pas le mot. J'ai cherché à la maison et en gros, le fuligineux, c'est tout ce qui a trait à la fumée noire, etc.
Oui.
Noirceur, quoi, du feu.
Oui.
Et en fait, je pense que c'est un bon qualificatif pour cette marque parce qu'il y a toujours cette noirceur, ces notes métalliques dans la plupart de leurs créations.
Oui, dans Tonnerre, tu retrouves. Moi aussi, j'ai découvert à sens unique. C'est spécial, tu vois. C'est vraiment ça, c'est de la niche, niche-niche, hein, ça rigole pas.
Ouais, franchement. Mais c'est bien foutu, ça. Une identité, l'évolution est vraiment belle. L'évolution suit la trame du discours cavalier. C'est genre cavalier avec. Avec son cheval, et t'as toutes les notes de l'univers équestre, hein, le cuir, la cire, les notes métalliques de l'armure du cavalier, etc.
Ouais.
Franchement, très très belle découverte.
En tout cas, le concept, pas mal. Hein.
Ouais.
Moi, je me rappelle plus trop. Là, je suis en train de checker les bouteilles, là. Tu vois, ça me parle. Mais vraiment, tu vois, olfactivement, je me rappelle plus.
Ouais, moi ça fait longtemps. Hein. Moi je me rappelle du tonnerre parce qu'il m'a mis une gifle, il m'a traumatisé, ça sent la guerre, la poudre. C'est un vrai délire, tonnerre. Un vrai délire. Mais ouais, c'est de la niche qui rigole pas. Tu vois, tout simplement. Après, ouais, c'est ça, on aime ou on n'aime pas, tu vois. Bon. Moi, perso, c'est pas tonnerre, je pourrais jamais porter ça, tu vois. Enfin, ça fait quand même des années que j'ai senti, donc peut-être maintenant j'en sais rien, mais à l'époque, j'ai fait un pas en arrière. Hein. Mais c'est cool.
Ouais, c'est non, franchement, c'est assez agressif. C'est toujours des cuirs assez puissants. C'est marqué quoi, effectivement. Enfin, tu peux pas en vendre 1 million, des trucs comme ça.
Ah, tu veux pas, non, non.
En
Ça,
tout
c'est
cas, c'est bien, c'est ils assument, tu vois. C'est bien.
ouais. Très bien. Mignon, mignon. Moi, j'ai retrouvé un petit échantillon là. Une petite spéciale dédicace à Épidote de Poivre Sacré Caron. Franchement, j'aime beaucoup. La première fois que j'avais senti, j'avais vraiment kiffé. Et là, franchement, c'est pareil. Hein. Gros encens, très épicé, poivré, c'est un délire. C'est vraiment, j'aime beaucoup. C'est pas mal, quoi. Très cher. parfumeur là, qui a pas de nom de famille là, Jean-Jacques.
Jean-Jacques.
Mais c'est vraiment c'est cool, hein. Franchement, moi j'aime beaucoup. Il y a des parfums comme ça chez Caron que j'avais beaucoup aimé. Je crois il y avait Montaigne aussi qui était sorti à peu près pareil là, il y a 2 ans. C'est vraiment pas mal. Voilà, rien de plus.
C'est stratégique par rapport au sujet d'aujourd'hui, le fait de porter un caron.
Ouais, tu sais que j'ai même pas percuté. C'est au moment où tu dis stratégique, je dis ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ils ont eu un gros groupe d'investissement aussi là.
Pas des moindres.
Pas des moindres, ouais.
Pas des moindres. Et demander Rothschild, pour ne pas les citer.
Exactement, exactement. Un
Eh
délire.
ben.
C'était, si je me trompe pas, le Jean-Jacques, là, il est arrivé chez Caron. Ils étaient déjà intégrés par les Rothschild. Si je me trompe pas. Faudrait voir un peu quand est-ce qu'il a débarqué, mais.
Ou est-ce que ça a été un mercato?
Ça a été un mercato, je pense.
Ouais, je pense, hein.
Non, non, il me semble que tout ça c'est lié, quoi. Mais bref, puisque on est dedans, on va y aller, hein. On va parler un peu de tout ce qui est les finances autour de la niche, l'intérêt de tous ces groupes d'investissement pour la niche, l'effet sur la niche, l'effet sur les marques, de manière générale, bien sûr, on va pas, de toute façon, on va pas rentrer dans tout, tout, tout. Mais c'est pour ça qu'on a ce très cher Sun John qui est là, parce que le monsieur, il me semble que tu travailles pour Financial Times, c'est ça? J'espère, j'espère. Enfin, ça va faire de la pub. Hein.
Non, moi à la base je vendais des formations sur Snap
Ouais.
et en fait il y a des non, j'ai une courte expérience dans la finance.
Ouais, c'est cool, c'est très cool. En tout cas, on va parler, bref, pour vraiment un peu poser tout ça d'emblée. Il y a des choses à dire vraiment. D'abord, il y a un constat, je veux dire, on est tous devant, c'est l'explosion de la niche, la hype gigantesque qu'il y a derrière la niche qui n'était pas du tout là avant, quand nous, on foutait les pieds chez Jouvois. Je veux dire, tout ça, c'était pas là, quoi. Et on voit toutes ces petites marques de pop niche qui explosent. Souvent par le Crivelli. De toute façon, c'est pas parce que ça explose et que c'est hypé que c'est forcément de la merde, déjà, première chose. Mais il y a quand même une chose importante, c'est le marché. Le marché de la parfumerie, c'est un marché qui est gigantesque. Et je suis tombé juste avant qu'on se contacte, qu'on enregistre aujourd'hui, pardon, un post de Olivier David, là, sur Instagram, qui publiait les derniers chiffres 2024, c'est-à-dire toutes les sorties qu'il y a eu en 2024. Écoute bien, c'est un record, hein. 6 718 parfums sortis en 2024.
Oh, incroyable. Oh.
C'est un truc de ouf. Et je
Oh.
suppose que c'est pas tout à fait complet, parce que des fois il y a des manques, ils ont pas tout. Ça, c'est une statistique qui est reprise sur Parfumo. Parfumo qui est un site donc dédié aux parfums. Et donc vraiment, ça montre que chaque année, on passe un palier, on bombarde, il y a des blockbusters gigantesques, ça c'est plus dans le mainstream bien sûr, et puis tu as des marques qui explosent, qui naissent de partout, voilà. Et puis tu as ce point qui est toujours intéressant, c'est l'investissement dans les marques de niche de manière générale, tu as des grosses marques, tu as des petites marques, et on a ces espèces d'investissements en série, là bah, ça tombe bien, tu parles de Caron. Comme tu dis, c'est pas n'importe quel groupe. Rothschild, ça représente quoi un petit peu?
Et dans la sphère financière, en fait, Rothschild est représenté de deux façons. C'est-à-dire, il y a plusieurs branches, entre guillemets, de la famille qui ont des entités. Tu as Rothschild & Co, la banque dans laquelle travaillait Macron, qui eux n'investissent pas d'argent, mais qui font du conseil financier. Et tu as Edmond Rothschild, qui est une banque privée, donc dans laquelle tu peux ouvrir un compte bancaire, qui gère des fortunes et qui investit en fait dans plein de secteurs de l'art de vivre, notamment le fromage, par exemple, les vins. Ils ont plusieurs vins, etc. Et par extension, la parfumerie. En fait, c'est pas forcément courant d'avoir des groupes d'investissement familiaux comme ça qui investissent dans la niche, mais eux aiment bien repérer, tu vois, des sous-secteurs dans lesquels on sait qu'il y a une clientèle qui est fidèle, comme on peut le voir dans les vins ou dans les fromages. Et la parfumerie en fait partie. En fait, mais pour ce type d'investisseur, ça reste un investissement original. C'est pas courant de
Ouais.
voir des fortunes familiales comme ça faire l'acquisition d'une marque de parfum. Parce qu'en vérité, une fois que tu achètes la marque à 100%, il faut la gérer. Et quand tu es habitué à gérer des placements financiers très divers, ça peut être un vrai défi de tout à coup gérer une marque dans laquelle tu dois vendre des parfums. Donc, il y a tout à la suite de ça, il faut reconstituer un savoir-faire, il faut redéfinir une stratégie et tout. Et on l'a vu dans Caron, en vérité. Ces dernières années, typiquement, l'identité visuelle des flacons a changé. Edmond Rothschild a fait l'acquisition de la marque en 2021. Et là, on a vu quelques sorties. On a vu un changement. Moi, j'ai même l'impression ça a un peu ravivé la marque. Ça a rajeuni la marque.
Mais complètement, il y avait
Ouais,
Caron
je te
était
confirme.
enterré, Caron était enterré.
C'était éteint,
Ah ouais.
franchement. Ah ouais.
C'est ça, c'est ça. Et ça a permis même de faire revivre un peu des classiques comme Tabac Blond, tu vois, qui sont des grands classiques de Caron. Et essayer de faire un peu de flanqueur autour de Pour un homme. Pour un homme, je veux dire, ça représente plus rien en parfumerie, tu vois, faut dire la vérité. Nous, on est là, on aime, c'est des classiques, mais qui porte Pour un homme? Tu vois, bon. Donc, quand ils ont fait une
Ben,
version
moi.
pour le soir, ouais, toi, quand ils ont fait la version pour le soir et je sais pas quoi, pour le matin et tout ça, c'est intéressant tout de suite, tu vois, y a une démarche, il y a une vraie démarche. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que le profil de Rothschild, ils sont pas venus chercher n'importe qui non plus. Caron, tu parles de fidélité, de fidélisation, etc., de clients. Caron, on est complètement dedans. Je veux dire, le mec qui achète Caron, c'est quand même un client fidèle. C'est pas quelqu'un qui était conquis sur TikTok. Impossible, tu vois.
Clairement, c'est un groupe historique et je me souviens plus de qui était le détenteur de Caron, j'ai oublié le nom, mais en gros c'était une société de cosmétiques qui détient deux ou trois autres marques et qui en fait était allé enregistrer des millions de pertes. Et donc pour Edmond Rothschild, c'est une aubaine en fait. Tu achètes une marque qui a une histoire, qui a malgré tout un public, même si ses ventes elles peuvent être en déclin ou la marque elle est un peu mourante, mais tu achètes une histoire et tu l'achètes pas cher. Parce que tu as un groupe qui est mal en point, qui doit vendre à la découpe ses boîtes et qui livre Caron probablement à un prix attractif. Du moment que tu as une bonne stratégie, tu rajeunis ça. Tu peux déjà chercher la clientèle, enfin ce qui reste de la clientèle ancienne, la reséduire, tu vois, avec un nouveau produit, on réédite les parfums d'avant, on les remet au goût du jour, on change le flaconnage, on communique, etc. Et surtout, tu vas t'exposer à une nouvelle clientèle qui ne te connaît pas, puisque malgré tout, il y a, tu vois, le client jeune de parfum qui s'intéresse à la parfumerie en 2020, en 2021, en 2022, il connaît peut-être pas Caron, mais t'es sûr qu'en 2023, en 2024, il a vu Caron aux Galeries Lafayette, au printemps ou dans ce genre de grandes enseignes de distribution du parfum.
C'est ça. Et en plus, tu as l'argumentaire dans la poche, vu que c'est une marque, c'est les grandes marques du parfum, Caron, tu vois. Donc,
C'est ça, t'achètes pas rien en fait.
ouais,
T'achètes
tu
pas une
achètes un
marque.
patrimoine,
Ouais,
quoi,
c'est
ouais.
ça, exactement, exactement. Et là où la plupart des marques de niche ont été créées après 2009, enfin les marques qu'on connaît aujourd'hui, l'essentiel de ce qu'il y a sur les étagères, ça a été créé après 2010. Les marques sont très jeunes en vérité. Il
C'est
n'y a
vrai.
que une dizaine ou vingtaine de marques qui sont là depuis 30-40 ans. L'essentiel des marques sont hyper, hyper jeunes.
C'est vrai. Quand tu vois un peu, toi qui as été un peu derrière certains, on va dire dans les coulisses, tu as vu au moins certains investissements se faire, etc. Parce que l'inquiétude, entre guillemets, hein, des fans de parfum, c'est pas une vraie inquiétude, tu vois, c'est un constat plutôt, c'est de voir que ça se multiplie. Toi, t'as ce sentiment de voir qu'il y a de plus en plus d'investissements comme ça?
Oui, effectivement, je pense qu'un bon moyen en fait, de voir que les investissements vont se multiplier, c'est de regarder qui achète. Initialement, les groupes qui achetaient des marques de, enfin, les investisseurs qui achetaient des marques de parfums de niche, c'était des grands groupes. On l'a vu à l'époque avec Serge Lutens et Shiseido. On l'a vu avec L'Oréal et Atelier Cologne, LVMH avec Acqua di Parma ou MFK, etc. Globalement, c'est des grands groupes, soit de la cosmétique, soit du luxe, qui veulent se diversifier, qui se disent, bon, moi j'ai l'habitude d'acheter, L'Oréal, quand tu rachètes Atelier Cologne à une dizaine de millions d'euros, c'est rien du tout face à L'Oréal qui achète Aesop du savon à 2,5 milliards d'euros. Donc, c'est des petites acquisitions, pour eux, c'est comme s'ils se payaient un café. Mais
C'est sûr.
là où on voit en fait qu'il y a un changement, c'est qu'on voit de plus en plus de sociétés d'investissement. Qui sont juste des fonds d'investissement qui investissent dans plein de secteurs différents, et surtout des secteurs, parce que les mecs passent en revue en fait un tas de secteurs et essayent d'identifier des niches qui présentent plus de croissance que les autres secteurs dans lesquels ils investissent. Tout à coup, Ils vont identifier le secteur parfum de niche. Ils voient que ça croît beaucoup plus que les autres secteurs du luxe. Pour donner des chiffres, par exemple, il y avait une étude qui était sortie par L'Oréal et qui disait la croissance annuelle du secteur de la parfumerie en général, donc globalement du mainstream, puisque c'est ce qui drive là-bas, elle est de 3% par an en général. La niche, elle est entre 11 et 15% par an, la
Ah ouais,
croissance
rien
annuelle,
à voir.
en
Ouais,
termes
c'est vrai.
de vente. Donc la dynamique n'a vraiment, vraiment rien à voir. Et quant à des fonds diversifiés qui vont faire des acquisitions, je pense qu'un des premiers, c'était Manzanita Capital qui avait acheté Byredo et qui l'a revendu à Puig pour un chiffre démentiel. Je pense qu'eux ont un peu ouvert le bal. Et ensuite, on a vu plein de transactions se faire. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, ces fonds-là, généralement, ils achètent de l'immobilier, ils ont potentiellement dans leur portefeuille des boîtes qui fabriquent des lasers, des trucs qui n'ont rien à voir avec la parfumerie. Et tout à coup, ils se mettent à acheter du parfum. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, ils identifient une aubaine, un secteur qui génère beaucoup de marge. Parce que malgré tout, la parfumerie, c'est un secteur dans lequel les marques font certaines marges.
Ah oui.
Et comme le luxe en général, qui croît de plus en plus. Parce qu'au bout d'un moment, quand on fait plein d'acquisitions dans un secteur, il arrive aussi un moment où ça sature. C'est-à-dire, ça devient plus intéressant parce que tout le monde l'achète. Et surtout, ces fonds-là, ils achètent pour vendre un jour. Ils n'achètent pas pour détenir les marques
Ouais.
toute une vie. Et ça, c'est toute la différence entre par exemple, ceux qui avaient acheté Byredo, Manzanita Capital, et
Ouais.
Edmond Rothschild. C'est globalement une société de gestion qui place l'argent de ses clients et d'une famille riche, qui place l'argent dans des actifs pour les détenir sur du très long terme et de gagner de l'argent ben, en se versant des dividendes. Versus des fonds d'investissement diversifiés comme ça, ils achètent des marques et le but, c'est de les détenir entre 5 et 7 ans et de les revendre plus cher. Le but pour eux, ce n'est pas de se verser des dividendes chaque année ou quoi. Ils achètent une marque et en fait, ils empruntent beaucoup d'argent. Avec l'argent emprunté, ils achètent la marque rembourse la dette. Et à la fin, en fait, toi, tu as acheté une marque qui vaut 100, tu as emprunté 70, tu as mis 30, la marque, elle rembourse les 70. Et donc, toi, pour 30, au bout de 5 ans, tu as une marque qui vaut 100. Et tu la vends. Et c'est globalement ce que font, et c'est ce qui s'est passé avec Byredo. Et c'est ce qui s'est passé récemment avec Parfums de Marly. Et on verra que dans 5 ans, Parfums de Marly sera disponible à la vente. Et un autre groupe ou un autre. Investisseur viendra poser quelques milliards. Il y a aussi Creed, pardon, j'ai oublié, c'était ça, il y avait Creed aussi, acheté par BlackRock et qui, là, vient d'être vendu il y a un an ou deux à Kering.
C'est toujours le même circuit en fait. Tu as des groupes d'investissement. Mais la question, parce qu'on va parler d'Estée Lauder, mais la différence entre un gros groupe, d'accord, comme Estée Lauder, et un groupe d'investissement, est-ce que Estée Lauder, c'est pareil, le but c'est de revendre ou là c'est de détenir?
C'est une bonne question. En fait, c'est marrant parce qu'on voit un peu des deux. Le but premier des groupes, en fait, on distingue les investisseurs par catégorie. Les fonds d'investissement, on appelle ça des sponsors financiers. Et les groupes, on appelle ça des investisseurs stratégiques. En gros, les groupes, donc les investisseurs stratégiques, eux, leur but, c'est surtout d'acheter et de créer des synergies, c'est-à-dire de générer encore plus d'argent avec cette marque-là grâce à ce que le groupe va apporter à la marque. Par exemple, typiquement Estée Lauder ou L'Oréal, ils ont déjà plein de contrats de distribution partout dans le monde de leurs produits actuels. Ils vont acheter une marque de parfum qui n'est vendue que dans, je sais pas, une dizaine, vingtaine, trentaine de pays, et ils vont directement la placer dans leur circuit de distribution, en l'incluant dans leur contrat de vente, à des distributeurs au Brésil, au Pérou, en Australie, etc. Donc augmenter le nombre de points de vente. Et donc la détenir, eux, leur but, c'est d'acheter et de détenir. En règle générale, ils vont acheter, ils vont détenir. Ils vont essayer d'améliorer les marges, augmenter les marges très souvent, et se mettre au niveau du standard du groupe. Tu achètes une marque qui fait 30% de marge, toi tu arrives, tu dis, bon, typiquement, on peut prendre le cas de Estée Lauder. Estée Lauder, ils détiennent Kilian, et si je ne me trompe pas, ils détiennent Tom Ford, par exemple. Typiquement, tu peux, t'appelles Firmenich, tu dis, au lieu de commander 100 kilos de roses par an, maintenant j'en commande 3000. J'utilise telle et telle de tes molécules. Pour une production qui est beaucoup plus grande. Donc, tu peux mieux négocier tes prix, etc. Tu la détiens longtemps, tu tiens ta marge. Très souvent, ces investisseurs-là ne revendent pas. Généralement, ils revendent quand ça va mal, soit parce que ça a été un échec, parce que ça arrive très souvent en fait,
Bien
que les acteurs
sûr.
ont des échecs, soit parce qu'ils rechangent de stratégie. Ils ne veulent plus être exposés à la parfumerie de niche. Ils disent, bon, bah, là, il y a un nouveau secteur en vogue. faut qu'on investisse dedans, mais on n'a pas de thunes. On va revendre nos participations dans la parfumerie et on va aller dans ce secteur, je sais pas moi, la skincare coréenne, par exemple. Versus les fonds d'investissement, eux, leur but, généralement, il est très très simple. On investit sur du court terme, enfin, on investit sur une période allant de 5 à 6, 7 ans, et on revend ensuite, parce qu'eux veulent gagner de l'argent. Eux, ils n'ont pas d'apport technique tu vois, ils sont pas spécialisés dans la cosmétique, enfin, il y en a qui peuvent l'être. Globalement, ils ont pas il n'y a pas de synergie, en fait. Ils ont pas vraiment de levier pour améliorer les revenus ou pour augmenter les marges. Eux, leur but, c'est d'acheter en empruntant beaucoup d'argent et en revendant la boîte quand elle a plus de dettes, et tu la revends à un tout petit peu plus cher que le prix auquel tu l'as acheté, mais tu fais une marge énorme. Parce qu'au début, tu as mis une très faible partie d'argent qui vient de ta poche. L'essentiel de l'argent que tu as mis vient en fait des banques qui t'ont prêté de l'argent.
Mais c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, je reviens sur par rapport à ta réponse et par rapport à ben, la question qui a été posée par l'ancien. Ben, selon les stratégies, j'ai l'impression qu'il y a une différence dans les DA. Par exemple, tu disais que souvent c'était des échecs, les acquisitions comme ça. Au bout d'un moment, ben, ça permet de comprendre pourquoi c'est des échecs. Et moi, en fait, moi, ce qui me choque, c'est pourquoi les sociétés, elles n'apprennent pas de leurs erreurs ou des erreurs des autres. Tu vois. Ben, en fait, tu as des très bonnes marques de niche avec des bonnes réputations, c'est pour ça qu'elles se font racheter. Et ben souvent après l'achat, ça part en vrille, quoi. C'est rare que ça s'améliore en fait.
C'est aussi l'effet de groupe, entre guillemets, c'est-à-dire l'effet d'avoir des investisseurs et qu'il faut trouver quelque chose qui va leur apporter de l'argent. Je pense qu'il y a une vraie pression. Parce que quand je les vois, ça tu pourras me dire, je sais pas, t'as pas mis les pieds dans ce genre de marque, Sun John, mais quand tu vois ce qui s'est passé, le meilleur exemple, de toute façon, c'est Frédéric Malle, tu vois. Tu as une marque à une identité très marquée, qui a vraiment. Entre guillemets, un patrimoine, même si c'est pas Caron ou Dior ou tu vois, mais Frédéric Malle, ça reste Frédéric Malle. Et après, quand ça part en sucette, tu te poses des questions, mais tu dois répondre. Hein. On est chez Estée Lauder, je veux dire, c'est pas, on n'est pas dans la rigolade, quoi, tu vois. Il y a un gros effet sur la direction artistique, je pense, tout simplement. Tu vois, The Night, c'est quand même un parfum qui est vendu extrêmement cher. Je pense que sa tranche de prix, ça fonctionne, mais tout ce qui a été fait à côté, c'est juste catastrophique, tu vois. Donc c'est ça qui inquiète à chaque fois. Pourquoi on amène ce genre de questions? Parce que les fans de parfums, ils ont généralement, de toute façon, c'est valable pour toute la masse, mais on n'a que des mauvais exemples devant nous, finalement, qu'on retient, tu vois.
Ouais.
Ouais, non, c'est un bon point que vous soulevez. Déjà, pour répondre au point du Zen, il y a une stat qui dit, qui est globalement générale au monde de l'entreprise, qui dit que 80% des opérations d'acquisition pour les entreprises sont des échecs. Mais donc, on peut se poser la question, comme vous l'avez soulevé, bah, pourquoi on continuait à en faire? Et en fait, typiquement, le cas de Frédéric Malle en est un bon. Quand des groupes achètent des marques, il y a une différence entre celui qui gère la marque, le manager, le CEO, tout ce que tu veux, et celui qui évalue la performance, c'est-à-dire l'actionnaire ou le conseil d'administration. Si tu vois que le chiffre d'affaires de ta marque, il augmente, globalement, tu en déduis qu'elle est bien gérée. Et pourtant, si ça se trouve, tu tires trop sur une corde qui t'arrive à augmenter le chiffre d'affaires pendant les 2, 3 premières années parce que voilà, tu augmentes les circuits de vente, tu vends partout dans le monde, etc. En fait, tu es en train de poncer l'image de marque d'un truc qui pourra jamais se vendre à des milliards d'exemplaires, qui a un plafond en fait en vérité, mais tu l'as pas véritablement identifié. Et en fait, c'est juste un arbitrage qui se pose. Tu te dis, ouais, mais si j'augmente, vas-y, j'ouvre les robinets à fond, je vais bazarder mon Frédéric Malle partout. Peut-être qu'en 3 ans, j'ai remboursé mon investissement. Si ça crache après, c'est pas vraiment un problème. Enfin, quand le gars juge son investissement, il se dit, bon, moi, si j'achète mon truc à 20 millions et que sur les 4 prochaines années, je génère 40 millions, bon, ça ne me dérange pas de le cracher. Versus, tu as des boîtes qui préfèrent, entre guillemets, pérenniser leurs investissements, et c'est un truc qu'on voit pas mal chez LVMH, même s'il y a toujours eu quelques échecs, mais LVMH a quand même le fort, entre guillemets, d'avoir eu très très peu d'échecs dans ses acquisitions. Aux dernières nouvelles, par exemple, il n'y a que la marque Off-White qu'ils ont revendue. L'essentiel de leur marque, ils aiment bien les détenir et ils les détiennent pendant très longtemps. Mais il y a pas mal de choses en fait qui entrent en conflit. Tu te poses la question, qui dans ces groupes-là juge la détérioration de la qualité de ce qu'on fait? Que ce soit la qualité du produit en tant que tel, ou simplement de l'image de marque qu'on est en train de travestir. Et ce qui est marrant, c'est que, et on l'a vu d'ailleurs avec Frédéric Malle, c'est quand les marques, elles se font racheter, très souvent, les groupes, par mesure de sécurité, ils négocient ce qu'ils appellent une lock-up période, avec les anciens managers, potentiellement les anciens directeurs artistiques, etc., en leur disant, on va faire un paiement différé, on va payer sur 3, 4, 5 ans la valeur de la boîte. Et en fait, pendant ce temps-là, on va vous fixer des objectifs, vous allez rester manager pour faciliter la transition. Donc en fait, ne perdent pas leur identité du jour au lendemain parce que les mecs restent aux manettes, les mecs qui détenaient la marque avant, restent aux manettes de la DA, etc. Et puis au bout de 3, 4 ans, ils prennent leur chèque. Et bah après, ils disparaissent. Enfin, soit certains restent dans la marque parce qu'ils conservent quelque part, soit ils disparaissent tout simplement et la marque, elle revient donc à la gestion du grand groupe. Et là, on voit des stratégies complètement différentes. Tu as des trucs qui restent plus ou moins conservés. Tu as des choses. Enfin, tu vois, typiquement, on pourrait même se poser la question avec Tom Ford. Là,
Complètement.
c'est terrible. Genre, par an, on a limite 5 parfums par an.
Ouais, c'est abusé.
Tom Ford,
Franchement.
c'est vraiment c'est un bon exemple. Mais même Frédéric
Ouais.
Malle, hein, Frédéric Malle, le gars a pris sa retraite là. C'est-à-dire, on est exactement dans l'exemple que tu dis de lock-up. Ça y est, le mec, il est là. Il a fini sa petite transition, il fout le camp. Bon, on n'est pas. Tout n'est pas encore visible sur ce qui va venir après, tu vois, parce que c'est très récent, mais. Les dernières années ont été vraiment catastrophiques chez Frédéric Malle. Et aussi, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Frédéric Malle, ce n'est pas une marque qui vend. Ce n'est pas une marque qui fonctionne à l'international. Ça ne fonctionne pas, Frédéric Malle. Pas, je pense, en tout cas, pas comme on voudrait que ça marche quand on est chez Estée Lauder, quoi, tu vois.
Ouais.
Bon, après, comme tu dis, il y a des risques dans tout, tu vois. Bon, les mecs, ils ont mis de l'oseille. C'est quand même Frédéric Malle, je veux dire. Quand tu viens et que tu achètes Frédéric Malle, quand même, tu as un petit gage de sûreté, tu vois. Mais
Ah
si tu
non.
détériores tout, comme tu dis, eh ben les effets, c'est maintenant. Combien de temps ça va durer comme ça, en érosion totale?
Ouais, effectivement, c'est un bon point, mais je pense qu'à la fin, en fait, le marché, entre guillemets, répondra toujours de ça. C'est-à-dire, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que faire des acquisitions et foirer les trucs, ça marche pas. C'est-à-dire, le client, tu peux pas chaque fois revenir avec... Là encore, le marché est très jeune, le marché de la niche, à l'échelle du monde. Mais au bout d'un moment, tu as besoin d'une certaine stabilité, comme le font les marques qui ont duré. Typiquement, les marques comme Guerlain, etc., qui sont là depuis 100 piges, même si on peut toujours questionner la qualité, etc., dans le positionnement et dans le discours, on reste toujours sur un discours où on insiste sur une forme de qualité. Le truc reste tout de même assez bien géré, même si bon, là, ces dernières années, on peut se poser des questions avec le nombre de flanqueurs, de sorties, de machins, l'évolution même de leur collection, entre guillemets, privée. Mais ces groupes-là, en fait, ils incarnent une certaine stabilité. C'est-à-dire, ils se fondent sur des classiques, on essaye de toujours raviver les classiques, et globalement, ce qui marche, ça reste les classiques. Chanel, ils peuvent sortir autant de collections que tu veux, machin. Ce qui ramène de l'argent, c'est Chanel numéro 5. Tout le reste, c'est du blabla. C'est pour arrondir, entre guillemets, mettre un peu de beurre dans les épinards. Mais le truc qui porte la marque sur le parfum, c'est Chanel numéro 5. Ça fait 100 ans que ça existe et ça sera toujours ça. Donc ce truc-là, t'as jamais intérêt à détériorer la qualité ou à te foirer là-dessus. Peut-être que la qualité peut toujours. Enfin voilà, il y a toujours des questions de reformulation, de ci, de ça. Tu peux parfois revoir quelques formules ou quoi si t'en es contraint. Et la qualité, tu dois la maîtriser par rapport à ce que tu vends. Et tu peux pas emmener la marque n'importe où. Tu peux pas emmener le discours de Chanel n'importe où. Donc là, le truc, c'est que les marques jeunes, comme entre guillemets jeunes, mais par rapport à la niche, c'est pas si jeune que ça. Mais pour une marque de parfum et pour une entreprise, c'est assez jeune, Frédéric Malle. Tu peux moduler des trucs, tu peux un peu t'éloigner, etc., du discours. Mais la vérité, c'est que si tu payes, et comme tu l'as dit, ce n'est pas des marques qui font des très gros chiffres de vente. Si tu détériores beaucoup trop le discours, tu perds ta clientèle de base. Et ce qui te ramène de l'argent, c'est ta clientèle de base.
C'est ça,
C'est les
c'est
mecs
ça,
qui achètent
c'est là
du
que je veux venir.
Sauvageur depuis 20 ans, ils leur achètent. C'est comme ça que ça marche, la parfumerie. La vérité, c'est que tu peux sortir autant de parfums que tu veux. Ce qui marque, c'est ton classique qui a ses clients depuis X années et qui se renouvelle et qui se transmet de génération en génération.
C'est pour ça que la fanbase, tu peux pas venir l'irriter comme ça.
Ouais, ben, peut-être c'est ce qui explique ben, les chiffres de vente d'une marque comme Frédéric Malle. En fait, le mec, il avait qu'avec des trucs qualitatifs, des trucs aussi ben, très différents les uns des autres, des fois. Et ben, peut-être que ça. Enfin, l'identité, elle est marquée, mais je sais pas, peut-être trop de produits d'un coup. Bon, après, bon, c'est pas le sujet, mais bon.
Ouais,
J'essaie
c'est...
de trouver une explication, quoi.
Non, moi je pense que c'est un problème de respect de la fanbase et quand tu veux développer, moi c'est ce que j'ai reproché plusieurs fois à ce genre de grand groupe en fait. Tu viens racheter une marque, tu veux la développer, il faut faire attention à l'image de marque et qui achète cette marque pour respecter ces gens-là avant tout parce que c'est eux ta fanbase. Même si tu veux gonfler, il faut gonfler dans un espèce de champ lexical, quoi, tu vois. Il ne faut pas venir
Ouais.
avec des phrases qui ne veulent rien dire.
Exactement. Et puis aussi même, je pense que c'est aussi la lecture que les gens qui gèrent ces marques-là se font. On le voit depuis quelques années, quand les marques essayent de se développer, elles prennent une carte du monde, elles se disent, bon, on a les gros marchés du luxe, c'est quoi? C'est l'Europe, l'Australie, qui est une typologie de clientèle assez similaire, les États-Unis et l'Asie, surtout la Chine et le Japon. Et en fait, les marques aujourd'hui, elles se disent, bon, ben, pour développer, que ce soit dans le luxe en général, il faut que je fasse un produit spécialisé pour toutes ces populations-là. C'est-à-dire, je vais avoir mon best-seller européen, mon best-seller américain, mon best-seller asiat, et voilà. Et on le voit d'ailleurs, les best-sellers aux États-Unis ne sont pas les mêmes que les best-sellers en Europe. Je prends un exemple
Ouais.
très simple, Creed Aventus, c'est un énorme best-seller aux USA, ça n'a pas du tout l'équivalent en Europe. Mais cette lecture-là, elle est biaisée, donc tu arrives. Au lieu de te créer des classiques et de te dire, peu importe s'ils ne marchent pas sur certains marchés, je vais quand même les pousser parce que c'est ce qui tient la fanbase, on veut créer une multitude de produits en se disant, on va cibler, tu sais, avec des études un peu farfelues, genre les habitudes culturelles, etc., on va cibler des marchés. Et on le voit, et ça ne marche pas en fait. Et on le voit typiquement avec Sakura de Dior. Dior, ils avaient sorti un truc à la fleur de cerisier pour les marchés
Oui,
asiatiques.
oui, oui,
Comme Ford l'avait fait avec Shanghai Lily.
oui.
En fait, ces trucs-là n'ont jamais marché. Ça n'a jamais été des best-sellers. Parce que globalement, ta clientèle asiatique qui s'intéresse aux parfums, enfin, surtout les Japonais, etc., n'achètent pas, ne consomment pas autant de parfums que les Européens ou les Orientaux. Ceux qui achètent tes parfums, en fait, ils viennent pas pour Sakura. Le peu de personnes là-bas qui aiment ce que tu fais, bah, ils viennent pour ce que les autres achètent. Pour les trucs connus, pour les eaux sauvages, pour les sauvages, ou pour les bois d'Arlon
C'est
même.
exactement, c'est exactement. Et
Le
cet
client.
exemple, excuse-moi, cet exemple, tu le retrouves au Moyen-Orient.
Exactement.
Moyen-Orient, toutes les marques ont essayé de faire des hoods, des machins, des trucs. C'est pas ça qui marche là-bas. C'est tout ce qui se vend en Occident.
Ouais. Mais exactement, exactement. Et tu le vois même au gré des chiffres. Les parfums qui se vendent le plus au Moyen-Orient, c'est Bleu de Chanel, c'est Sauvage.
Exactement.
Ouais.
C'est l'exemple que j'avais
C'est
en
pas
tête.
la version Oud, c'est pas Oud-Wood. Oud-Wood, la zone dans laquelle c'est un best-seller, c'est aux États-Unis.
Ouais. Et même en général, les parfums orientaux, enfin typés oriental comme ça. On en a déjà parlé, mais c'est plus porté par des mecs d'ici, quoi. Il a son oud, mais estampillé Dior ou estampillé, enfin, tu vois, d'une grande maison. C'est les racines, mais stylé, quoi. Ouais.
Racine luxe.
Non, clairement, clairement. Parce que globalement, en fait, pour vendre l'esthétique d'un produit de luxe, en règle générale, tu dois être européen, voire je dirais même tu dois être français. C'est-à-dire tout ce qui est une imitation du luxe a une empreinte française. Pourtant, les Indiens ou tu vois, les Indiens, c'est des grands amateurs des parfums, etc. Mais c'est très dur pour eux de
Oui.
faire émerger une marque de luxe, parce que les gens associent pas en fait le luxe à l'Inde. Ils
Ouais.
associent l'imaginaire du luxe à la France. Donc tu pompes un truc qui pourrait plaire, enfin des épices, etc. Un discours autour de l'Inde, tu l'estampilles Dior et tu crées Spice Blend ou je sais pas quoi.
Exactement, ouais, c'est ce que j'allais dire.
C'est en train de changer, hein, c'est en train de changer. Notamment au Moyen-Orient. C'est en train de changer. Ils sont en train de vraiment de pas. Le mot est pas très juste, mais court-circuiter tout ce qui vient de France et d'Europe au niveau du luxe pour créer leur propre marque de luxe. Après, ils sont les gens au Moyen-Orient, ils sont business. Tu vois, les groupes là-bas, ils rigolent pas, ils connaissent le business. Donc, ils se disent, attends, ça fonctionne pourquoi en Europe? Il y a du marketing, il y a du produit, il y a de la qualité, il y a ci, il y a ça. Ben, nous, on peut le faire.
Ouais.
Et ils prennent tous leurs points de vente qu'ils ont déjà et c'est parti, ils créent leur propre marque de luxe. On a vu ça notamment là dans le dernier salon de Dubaï. C'est criant. Tu vois? Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est une justice.
C'est une justice, mais c'est un bon point que tu soulèves parce qu'en fait, on peut vraiment l'observer factuellement avec Amouage.
Exactement.
Récemment, il y a des articles là, qui sont sortis en disant qu'il y a des discussions en cours avec L'Oréal et Amouage, où L'Oréal devrait prendre une part minoritaire, genre 20%, de Amouage. Et la valorisation de Amouage serait 3,2 milliards de dollars. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que pour Amouage, ça leur permet quoi? De continuer, enfin, la société royale qui détient Amouage, du moins, ça permet de toujours contrôler Amouage et de maîtriser la DA. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fonds d'Amouage, ça reste de promouvoir les matières premières de Oman. Et ça s'inscrit dans une stratégie d'État. C'est pas du tout le but, c'est pas de faire du parfum, de qualité, etc. C'est de montrer qu'on a un pays qui est capable de créer des roses, de l'oliban, des matières premières nobles dans la sphère de la parfumerie, de les travailler et de les revendre en produits finis. Et ça s'appelle Amouage. Ça promeut un pays au global qui essaie de développer son image dans le monde. Et en fait, ils se disent quoi? Pas, je vais revendre mon truc à L'Oréal et empocher un chèque de 3 milliards. Non, je vais vendre 20%. Comme ça, L'Oréal maintenant va m'assister sur tout ce qui est distribution, toute la partie, on va dire, de gestion du business. Même si eux, ils savent faire, mais L'Oréal, ça reste le plus grand groupe de cosmétiques sur Terre. Et donc, tu vas prendre en fait ce que toi, tu veux prendre de eux, mais tu gardes la mainmise sur la gestion, sur l'image et sur ton produit en tant que tel.
Ouais.
Et tu ne le donnes pas à un groupe.
Ah, moi, c'est vraiment un exemple de réussite. Hein. Vraiment,
Ouais.
c'est du vrai taf. Je parle pas du tout olfactivement parce que bah, nous, on l'a déjà dit, les derniers trucs sont sortis. C'est pas... On est un peu déçus, mais je parle vraiment en tant que marque, en tant qu'entité, société. C'est pas du tout de la rigolade. Hein, moi, c'est
Non.
pas du tout de la rigolade. Tu vois?
Alors moi, ils ont une image, enfin même dans la niche, ils ont une image. Enfin, je veux dire, c'est le haut du panier, quoi.
Les mecs arrivent à avoir des classiques. Bah, voilà. Il y a combien de marques de niche qui peuvent prétendre avoir des classiques? Il n'y en a pas
Ouais, c'est
beaucoup.
vrai. Des best-sellers, ok, tu vois, mais des classiques,
Atelier Cologne, il n'y a pas de classique, mon très cher Son John.
ouais.
C'est quoi? Pour nous, vraiment, tu vois, quand on parle d'échec, quand on parle de réussite, bon, Caron, c'est un peu gris, on ne sait pas trop, tu vois, on ne sait pas trop où ils vont non plus, mais on sent bien un énorme développement, on sent que ça bouge. Après, bon, tu peux faire des erreurs, peu importe. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui sont passées chez Caron. La première chose, évidemment, c'est qu'ils ont fait revivre complètement une marque qui était en train de mourir. Et puis, tu as les échecs cuisants, le fameux Atelier Cologne L'Oréal. Comment tu vois ça? Moi, je vais juste donner mon ce que nous on a observé à l'époque, tu vois, c'est que avant que Atelier Cologne soit racheté, on a senti que les mecs mettaient l'oseille à fond dans le seul but d'être rachetés. Donc on a vu énormément de points de vente poussés à gauche à droite, voilà les références sortir, en gros un aimant à investisseurs, tu vois. Mais bon, on a vu que c'est une marque qui est cuite, quoi, tu vois, clairement, quoi. Comment toi tu vois le truc de derrière la chaise de banquier?
Non, non, c'est un bon point en fait. Atelier Cologne, c'est un très bon point parce que quand tu dis c'est une marque qui a mis le paquet pour se faire racheter, en fait on peut le voir chez certaines marques. Pour se faire racheter, il faut remplir certains critères. Déjà, on peut peut-être commencer par le commencement. C'est les mecs veulent se faire racheter, pourquoi? Parce qu'ils créent une entreprise, ils veulent augmenter, c'est de tout faire pour augmenter la valeur de cette boîte et de la revendre et prendre leur billet. Ensuite, ils feront autre chose de leur argent. Et la parfumerie, en fait, c'était juste un moyen pour eux d'entreprendre. C'est-à-dire,
Exactement.
c'est pas la parfumerie, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Peut-être que c'est le cas, hein, mais pas faire de procès d'intention. Mais surtout, le but, c'est de se dire, bon, bah, ce genre d'entrepreneur-là, entre guillemets, ils disent, là, j'ai créé une marque de parfum. Peut-être le mec, il aurait pu te vendre des oignons aussi, ça aurait été pareil, tu vois. Il a juste identifié son secteur et il s'est mis dedans. Ensuite, effectivement, tu as des marques dans leur gestion qui peuvent mener des choix pour augmenter la valeur de l'entreprise. Pour faire très simple, quand je disais tout à l'heure, à moi, j'ai été valorisé à 3 milliards, etc. Globalement, la méthode de valorisation des marques, elle est relativement simple à comprendre. Il y a une métrique financière qui s'appelle l'EBITDA, ça veut dire les gains avant ce que l'entreprise gagne avant de payer ses taxes et tous les frais qui ne sont pas opérationnels, qui ne sont pas liés à la production directe de parfum. Donc en gros, tu prends le chiffre d'affaires, tu enlèves les coûts directs, les coûts des flacons, les coûts des huiles, les coûts de remplissage, de sertissage, de transport, etc. Tu enlèves les coûts indirects le marketing, l'administration générale de la boîte, etc., les frais juridiques et tout. Et ça te donne cette mesure-là, la performance opérationnelle, ou en anglais, l'EBITDA. En fait, ce chiffre-là, cette performance opérationnelle-là, donc chiffre d'affaires moins coût direct, moins coût indirect, on va y mettre un multiple. Et le multiple, il dépend de ton secteur. Tu as des multiples sectoriels, le multiple dans le secteur du luxe, le multiple dans le secteur de la tech, des data centers, etc. C'est ce qui va donner la valorisation. C'est pour ça qu'on entend des boîtes, elles sont survalorisées, sous-valorisées. En fait, quand une boîte, elle a une valeur qui est plus haute que la valeur de son secteur, on dit qu'elle est survalorisée. Et ce multiple, il dépend de la perspective qu'ont les investisseurs sur cette marque-là. Et globalement, comment les mecs essayent de entre guillemets, gonfler le multiple ou la valorisation de leur boîte? En trouvant des contrats stratégiques, en essayant plutôt. En fait, les gars, par exemple, préfèrent avoir un contrat de distribution avec Printemps et Galeries Lafayette plutôt qu'être vendu dans 75 parfumeries de niche. Quand bien même les 75 parfumeries de niche pourraient potentiellement générer plus de chiffre d'affaires que Galeries Lafayette, etc., le contrat de distribution sur 5 ans avec un gros distributeur comme Printemps, comme Galeries Lafayette, comme Harrods à Londres, ou les grands distributeurs aux États-Unis, ou ceux au Moyen-Orient, ils apportent plus de confiance à un investisseur qui, globalement, il ne connaît pas grand-chose, entre guillemets, sur le secteur, plutôt que le fait de dire, ouais, je suis vendu dans 50 parfumeries indépendantes, je ne sais pas trop comment les classer, les mecs, ils ont des boutiques de 25 mètres carrés, mais ils crachent de l'argent. Donc, en fait, tu vois, les marques qui vont essayer de tout faire pour être vendues à Printemps, Galeries Lafayette, avoir une gamme de produits très, très large, parfois être incohérente, qui ne se vend pas des masses, mais qui, en fait, tu as une cinquantaine de produits qui se vendent 10 pièces l'unité, plutôt que d'avoir un produit qui se vend en 300 pièces l'unité. Voilà, on essaie de diversifier les gammes, etc. En fait, d'envoyer ce message à l'investisseur de « je suis une bonne marque, j'arrive à vendre plein de produits différents, je suis tout petit, tu as juste à mettre des thunes dans mon business et il va exploser. » Ça, c'est le discours général. Comme ça, tu attires ton investisseur, comme L'Oréal, par exemple, et eux sautent dessus. « Bon, bah là, effectivement, les mecs, ils vendaient 10 pièces, ils ont 50 produits, ils vendent 10 pièces de chaque, et moi, je vais mettre mes thunes dedans et ils vont vendre 100 pièces de chaque. » En fait, c'était un leurre. La marque, elle n'a pas une histoire. Enfin, encore Atelier Colonne, ça avait démarré avec un certain but, tu vois, de faire des colonnes, de revisiter des colonnes qui tiennent, etc., etc. Mais tu peux pas produire Oud Saphir, en fait, avec ce discours.
Exactement.
Pas commencer sur la colonne et me fabriquer des Ouds parce que tu t'es dit, bon, bah, je vais pas vendre mes colonnes à Dubaï, donc faut que j'en fasse un Oud, alors que ça correspond plus à ton image. En fait, tu fais n'importe quoi. Ça devient brouillon, ça devient illisible. Et le groupe derrière qui rachète ça, et qui dit bon, à ce stade, ça se vend un peu, moi je vais mettre des sous dedans, ça va exploser, il saute sur une mine. C'est un truc qui est impossible à développer. Tu peux pas réécrire l'histoire après avoir sorti le produit. Il fallait écrire l'histoire avant, inventer un discours qui soit cohérent, et ensuite ramener un produit qui corresponde à ce discours. Si tu le fais dans l'autre sens, et que tu achètes une marque qui te fait Oud Saphir, et tu viens nous bazarder ça aux États-Unis en expliquant que c'est des colonnes revisitées, l'Américain, lui, il veut un truc qui sent le citron et la bergamote. Prends pas ton histoire de colonne qui sent le oud, qui était destinée au marché du Moyen-Orient, mais les Orientaux, ça leur dit rien du tout. Tu arrives sur un produit qui est incohérent, qui n'a pas de discours, qui est juste invendable. Quand bien même tu mets autant d'argent que tu veux pour le développer.
Ce que tu dis, c'est important parce que là, on l'a parlé pour Frédéric Malle, entre guillemets, on l'a dit, la cohérence, c'est extrêmement important, tu vois. Mais il y a un autre point, tu sais, qu'on aurait pu soulever dès le début de l'épisode, c'est l'intention quand tu viens créer ta marque. En fait, c'est très important. Atelier Cologne, c'est le meilleur exemple. On peut citer Memo aujourd'hui, on peut citer toutes ces marques qui sont là à vouloir être achetées ou qui viennent d'être achetées, etc. Là, ce qu'il faut penser avant tout, il faut jamais oublier que c'est un business. Avant tout, c'est un business. Si tu viens, je vais revenir à un exemple, mais si tu viens créer ta marque, te lancer dans l'industrie, peu importe, tu es petit ou tu es gros, tu es dans l'industrie, pour ne rien vendre, comme dit le Zen, distribue tes parfums devant le métro ou pose-les au musée. Là, tu es
Ouais,
dans un
comme les 20
business.
minutes.
Comme les 20 minutes. Là, tu
Ouais.
es dans un business. Après, c'est pas parce qu'une marque est expérimentale qu'elle ne pense pas business. On a parlé de Beaufort London, c'est mon exemple, tu vois, Beaufort London, c'est une marque à son public. Ce n'est pas un problème. Mais il y a des marques qui viennent. Le meilleur exemple, on va dire récent, parfum de Marly, c'est des marques qui viennent business. Ils n'en ont rien à foutre du parfum, ces gens-là. Ils ne sont pas venus pour ça. Atelier Cologne, bon, peu importe, comme tu dis, On va pas faire des procès d'intention, tu vois. On sait pas à la base ce qu'il voulait faire. Ok, peut-être t'es nul, tu connais rien, tu fais de la merde. Ça fonctionne, tant mieux pour toi, tu vois. C'est pas le problème en fait. Mais faut pas oublier la notion de business, c'est super important. Et là, l'exemple où on est une espèce de croisée des chemins, quand tu parles d'Atelier Cologne avec Oud Saphir, t'as oublié des notions importantes. Encore, on va pas dire que Oud Saphir a saboté la marque, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pu être un flop et il y a plein d'autres parfums à acheter dans la collection. Mais moi, vraiment, Atelier Cologne, pour te dire, hein, je pense qu'on aurait largement pu développer, vendre, cartonner. D'ailleurs, c'est pas une marque qui est complètement morte, hein. Mais je pense que si on doit accuser quelqu'un, vraiment, pour moi, c'est L'Oréal. Parce que tu as une marque qui fonctionne. Tu as des points de vente, comme tu dis, c'est problématique, il n'y a pas beaucoup d'histoire, c'est une petite marque. Mais tout se fait, tout se crée, tu peux communiquer, tu es L'Oréal, tu n'es pas n'importe qui. Donc, c'est vraiment des marques, je ne comprends pas pourquoi ça marche. Tu sais, il y avait des petites formules intéressantes, hein. Il y avait des espèces de petits packs, j'ai un peu oublié, là, une étui, vraiment, j'ai un peu oublié comment ça se faisait, mais il y avait des trucs, des petits attrapes clients vraiment intéressants chez Atelier Cologne. Échec, pas mat, tu vois, mais moi, je pense qu'il y a des grands groupes, ils ont vraiment besoin de comprendre certains fonctionnements, certains trucs. Je pense qu'ils viennent trop avec une mathématique. Pourtant, L'Oréal, c'est pas des bouffons. Ils ont combien de marques de parfums, ces gens-là? Peut-être qu'ils connaissent rien dans la niche, je sais pas moi, tu vois.
Clairement, après, non, c'est un bon point que tu soulèves. Après, faut quand même, c'est vrai, même si tu as ces groupes-là qui sont très expérimentés sur le secteur de la cosmétique, la niche, ça reste jeune pour eux. Ça fait 10 ans qu'ils achètent des marques de niche. Ils tâtonnent un peu, ils font leurs premiers échecs. Et surtout, pour eux, ce n'est pas des échecs qui sont coûteux. Il faut quand même se rappeler, tu vois, que L'Oréal, je crois, c'est 180 milliards de valorisation, un truc comme ça. Atelier Cologne, c'est vraiment le dernier dossier dont on parle entre 11h55 et midi. Et donc, ils en parlent à la pause café, limite. Mais effectivement, et je pense, et, tu vois, c'est marrant, ça me fait le parallèle avec un truc. Et je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire. D'ailleurs, on les voit en ce moment, même avec la dernière collection de Amouage. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre l'acquisition de marques de parfums et le secteur de l'œnologie, genre l'acquisition de domaines viticoles, etc. Quand les groupes achètent des domaines viticoles, tu sais, c'est un truc, tu achètes un terrain qui a des vignes, tu ne peux pas produire 1 milliard de bouteilles. Il y a une limite qui t'est imposée par la nature. Donc si tu veux gagner de l'argent, au bout d'un moment, tu augmentes la qualité de ton produit et tu le vends plus cher. Il n'y a pas 1 000 possibilités. Ton terrain, il te permet de produire 1 000 bouteilles. Il ne te permettra pas d'en produire 2 000 ou 3 000. Et un truc qui était intéressant, j'ai un pote, il est hyper fan de moi, je n'y connais pas grand-chose, mais il y a un pote qui est hyper fan d'œnologie, etc. Et il me disait, tu sais, les champagnes Dom Pérignon, les trucs de boîte de nuit et tout, 400 balles la bouteille, j'en sais rien. Il me disait, en fait, tu peux pas avoir un champagne qui est vendu dans toutes les boîtes de nuit sur Terre et croire que c'est de la bonne qualité. Parce qu'il n'y a qu'une seule région dans le monde où tu peux faire du champagne. Du coup, ce n'est pas possible d'avoir 20 000 bouteilles sur Terre et de croire que c'est de la qualité. Donc, en gros, pour souligner le fait que à la fin, il y a un plafond de verre. Et je pense que pour les grands groupes qui achètent des marques, il faut comprendre ce truc-là, c'est que tu ne peux pas accélérer le développement d'une marque à l'infini. Ça prend énormément de temps. Enfin, c'est des perspectives très, très long-termistes. Parce que il faut gagner des clients, les fidéliser, attendre d'avoir cette fidélité-là pour essayer d'en gagner d'autres, etc. Plutôt que d'arriver, d'exploser le nombre de collections, d'essayer d'être vendu partout sur Terre. Et à la fin, en fait, le marché ne reçoit pas ton truc. Déjà parce que c'est hyper concurrentiel. Il y a de plus en plus de nouvelles marques. Et surtout, quand tu es Atelier Cologne et que tu arrives sur un marché où on ne te connaît pas, typiquement là, ça a été un échec aux États-Unis et au Canada, où L'Oréal a arrêté de distribuer là-bas. En fait, quand on ne te connaît pas, même si tu es détenu par L'Oréal, les mecs te jugent de la même manière que la marque a été créée hier. Le client, il te voit arriver sur l'étagère. Pour lui, il fait aucune différence entre toi, qu'il ne connaissait pas hier, et la marque qui a été créée la semaine dernière et qui vient d'être vendue. Donc
Exactement.
quand tu arrives, tu es en concurrence avec tout le monde. C'est pas comme si tu es Tom Ford, tout le monde te connaît, et les mecs, ils attendent juste que tu sois vendu dans leur pays. Et c'est pas du tout ça. Quand tu arrives, tu séduises ton public, il faut que tu le fidélises, il faut que tu lui proposes quelque chose. Il y a une vraie cohérence, qu'il y a une histoire, etc., sur lequel une corde sur laquelle il peut tirer. Et ça, en fait, c'est marrant parce que tu vois des différences de gestion en fait, entre les marques au sein d'un même groupe. On peut dire qu'il y a des marques qui sont plus ou moins bien gérées et d'autres qui le sont moins. Typiquement, la gestion de MFK chez LVMH et la gestion de Acqua di Parma est très différente.
Ah oui.
Acqua di Parma, on a quand même si on a fait des. Bah, c'est un bon exemple en fait. Acqua di Parma, c'est un bon exemple pour contrebalancer Atelier Cologne. C'est que tu as toute cette esthétique-là de la Côte d'Azur, de la Cologne, etc., qui est très maîtrisée, je trouve, chez Acqua di Parma. Dans la distribution, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de barbeurs, par exemple des barbeurs un peu haut de gamme, qui vendent des parfums Acqua di Parma. En fait, ça correspond au produit, à la Cologne, l'homme qui met une Cologne, etc., mais qui est quand même un peu raffiné, entre guillemets, qui va dans un barbeur haut de gamme, etc., et il peut s'acheter son Acqua di Parma là-bas. Donc le point de vente, il correspond à la clientèle que tu veux toucher. Et la marque n'insiste pas sur ses ouds. Elle a fait des ouds, mais ce n'est pas le produit qu'on met en avant sur le site Acqua di Parma, parce que l'essence de la marque n'est pas là. Et
C'est vrai.
donc, on peut voir qu'au sein des groupes bah, comme LVMH, la gestion des marques est très différente. Et je trouve que pour un groupe qui a quand même peu de marques dans son portefeuille, ça reste très. Les stratégies ont l'air plus long-termistes que ce qu'on a pu voir chez L'Oréal avec Atelier Cologne. On a voulu accélérer le truc d'un coup, en mettant des objectifs à 3, 4, 5 ans. Et forcément, à la fin, ils sont hyper durs à atteindre. Voire, ça devient des échecs qui sont très lourds.
Ouais, mais comme tu dis, il y a aussi, c'est important hein, ce que tu as dit, c'est que ça fait 10 ans qu'ils achètent des marques. En gros, Atelier Cologne, c'était un terrain d'entraînement, quoi.
C'est quand même étonnant de. Enfin, je veux dire, tu sais, le storytelling, tu sais, avoir une histoire, la cohérence. C'est des trucs, enfin, je veux dire, à nous, à notre échelle, c'est un truc qu'on a réussi à déceler. Enfin, je comprends pas comment des mecs sont payés pour ça, surtout qui développent des marques et tout ça. Enfin, ils n'arrivent pas à se rendre compte d'un truc pareil, en fait. Tu sais, au final, on se rend compte que dans les investissements, c'est comme en amour, tu vois. L'argent, ça suffit pas, tu vois.
Non, mais il l'a dit, Sun
C'est
John,
pareil.
il t'a répondu avant que tu soulèves le sujet. Ça, c'est Atelier Cologne, c'est un sujet devant la machine à café. C'est ça le truc.
Mais surtout quand Lezen, tu dis
C'est une sidekick.
des sujets que nous on arrive à identifier, mais je vais révéler un secret de Polichinelle. Mais typiquement, vous deux, vous passez plus de temps à analyser Atelier Cologne que les mecs du conseil d'administration de L'Oréal qui détiennent la marque.
C'est sûr, c'est
Eux, ils
sûr.
passent 15 minutes sur tous les 3 mois, ils passent 15 minutes sur le dossier. Même si ouais, c'est des choses qui peuvent paraître basiques, etc. Je pense qu'en fait, les gars ne voient même pas l'échec.
C'est
En
possible.
fait, à la fin, le manager annonce, ouais, on a fermé les points de vente Canada, Amérique du Nord, blablabla. Le mec, il dit, ouais, c'est combien? C'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah, dossier suivant.
Ouais, c'est ça.
Rien.
C'est
On n'a même
ça.
pas senti, en fait, à la fin.
C'est ça. Et quand tu vois, on avait soulevé un peu le sujet tous les deux avant l'épisode, quand tu vois Atelier Materie, donc pareil, petit groupe d'investissement, je ne sais même pas qui est derrière, j'ai un peu oublié. Qui reprend un peu la marque.
Crédit Agricole Aquitaine.
Ah voilà, Crédit Agricole Aquitaine, mon gars. C'est incroyable quand même. J'ai
Ouais.
juste dit le nom pour moi, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre
Ouais.
là?
C'est intéressant.
Ah oui.
Atelier Matériel, je ne sais pas quand est-ce que ça a été créé, je pense en 2020, un truc comme ça. Ouais, c'est assez jeune.
2020, 2000, ouais, maximum 2018, quoi, tu vois.
Ouais, exactement. Maximum de 2018. Et en fait, la marque, donc, de ce que j'ai vu, a été créée par Véronique Lebihan. Qui a développé quand même une identité assez forte autour de la matière et tout, de la sculpture, machin, d'où les noms cacao, porcelana, etc., et le bouchon en ciment. Donc, en gros, tout ça pour dire une esthétique assez maîtrisée, on va dire, et qui est vendue à l'heure actuelle dans 130 points de vente dans le monde. Le but de la marque, c'est bah, de continuer son développement. En fait, le truc, c'est que, premièrement, quand tu gères une marque comme ça, pour financer ton développement, c'est-à-dire essayer d'être vendu dans plus de points de vente, élargir tes gammes, enfin voilà, prendre une autre dimension. Pour aller chercher de l'argent, donc c'est de l'argent conséquent par rapport à la taille de ta marque, c'est conséquent. Déjà, tu ne peux pas emprunter. Il faut se dire un truc, c'est que tu ne peux pas aller voir une banque qui va te prêter de l'argent. Les banques peuvent te prêter de l'argent quand tu as une marque qui tourne, etc., qui génère du chiffre d'affaires, mais pas un montant qui soit conséquent par rapport à ta taille. Pourquoi? Parce que les banques, quand elles te prêtent de l'argent, elles veulent financer des actifs. C'est-à-dire, elles veulent financer des magasins, par exemple. Elles ne veulent pas financer du stock, genre la création de parfums. Parce que financer le développement pour une marque, ça veut dire quoi? Ça veut dire embaucher des commerciaux, embaucher des gens en marketing, produire plus de parfums, et faire du marketing. Ça suppose pas d'acheter des entrepôts, ça suppose pas d'acheter des biens que si t'es pas capable de rembourser ta dette, tu vas les revendre. Donc en fait, la solution pour les marques comme Atelier Matériel, et c'est ce qu'ils ont fait, c'est d'aller voir des investisseurs. Et là, pareil, t'as pas mis l'option. Soit tu vas avoir des personnes très riches, ou pas d'ailleurs, des investisseurs particuliers, soit tu vas avoir des fonds d'investissement. Et parmi les fonds d'investissement, il y a surtout les fonds d'investissement régionaux, donc qui très souvent sont en fait des petites succursales des grandes banques qui investissent dans des projets de leur région. Et je pense qu'en fait, la fondatrice ou peut-être la marque basée en Aquitaine,
Ouais,
la Crédit
sûrement.
Agricole Aquitaine, qui met 1 million d'euros dedans pour prendre une part minoritaire, en se disant, avec la même logique que les grands fonds, en se disant, je vais mettre de l'argent dedans et je vais récupérer ma mise dans 5, 6, 7 ans. Et là, on peut se poser la question de quelle manière? En fait, on est censé amener où dans 5, 6, 7 ans Atelier Matériel pour que les mecs revendent leur part?
C'est ça la
Là,
question.
pareil, t'as pas beaucoup d'options. Donc, globalement, le premier truc, c'est de revendre aux actionnaires existants. C'est-à-dire que l'actionnaire existante, elle génère suffisamment d'argent pendant cette période-là pour qu'elle puisse racheter la part qu'elle a vendue à Crédit Agricole. Acheter les parts du moins de Crédit Agricole. Soit tu as un autre fonds d'investissement qui revient. En fait, le truc, il tourne. Le truc, il continue à rouler. Et des fonds d'investissement s'échangent en fait les parts. La marque, donc, dans 5 ans, je sais pas, elle a fait x5 en termes de chiffre d'affaires. Bon, bah, tu peux dire globalement, le fonds qui a mis 1 million d'euros l'année dernière fait x5 sur son investissement et il revend à un autre fonds qui rachète la part et qui, pareil, l'histoire se succède. Comme on l'a vu typiquement avec Byredo, par exemple. Donc voilà, donc globalement, soit les mecs, ils achètent, ils revendent à la fondatrice, qui, avec l'argent qu'elle a utilisé, j'avais vu le détail en plus, ça a été rendu public. En gros, les 1 million d'euros devraient servir à embaucher 4 personnes et financer le développement international.
Voilà.
Et étendre le nombre de points de vente et potentiellement même avoir des points de vente entre eux.
Voilà, exactement. C'est intéressant, hein?
Pour ajouter un dernier point, en fait, il faut quand même se dire que ça peut paraître farfelu de se dire qu'est-ce que va foutre Crédit Agricole Aquitaine dans une marque de parfum? Est-ce qu'il ne pourrait pas tout simplement mettre des thunes dans un projet de panneau solaire régional ou, je sais pas moi, un truc de recyclage régional? Enfin, tu te dis, les mecs, ils doivent avoir plein d'opportunités d'investissement. Qu'est-ce qu'ils
Ouais.
vont faire dans une marque de parfum qui paraît quand même très risquée, tu vois? C'est possible que la meuf, elle échoue. Mais en fait, il faut se dire que malgré tout, l'opportunité d'investir dans des marques de parfum, de niche notamment, est très rare pour un investisseur. L'investisseur, il se dit quoi? Il se dit, je vais mettre mes œufs dans des paniers différents. Et moi, j'ai une poche d'argent, je sais pas, j'ai 200 millions d'euros à investir par an. Je vais mettre un peu dans tel secteur, un peu dans la fabrication de laser, un peu dans la tech, un peu dans la cosmétique, un peu dans ci. Et là, j'ai un sous-secteur parfumerie de niche. En fait, dans ce sous-secteur-là, il n'y a pas de concurrence. Qui vient présenter à Crédit Agricole Aquitaine une opportunité d'investir dans une marque de parfum? Je pense très peu de gens. Et donc, tu as ce truc-là où tu bénéficies du fait d'être niche. Parce qu'un investisseur, tu lui proposes une exposition à un marché dans lequel il n'aurait pas pu être exposé autrement.
Oui, c'est vrai. Et j'ai remarqué que tu aimes beaucoup les lasers. Enfin
C'est balancé en mode la technologie dure
bon.
et le parfum.
Bah écoute, c'est cool, hein. Tu as éclairé pas mal de lanternes, mon très cher Sun John. Je pense que ça mérite
Franchement.
un petit numéro 2 comme épisode. Je dis ça, je dis rien. Si vous êtes chaud, parce que je sais qu'il y a d'autres marques dans les poches de Sun John.
Ouais,
Des trucs.
ça va être cool, tu
Des
vois.
trucs intéressants.
Intéressant.
Ah, de ouf. Mais c'est important de dire ça ici parce que. C'est vrai qu'on parle souvent d'échecs, on parle souvent de réussite, on parle souvent business. On rentre jamais dans les détails. D'abord, nous, c'est pas notre domaine, clairement, tu vois. Et là, ça permet de quand même de mettre la lumière sur une partie essentielle. L'oseille, c'est essentiel, peu importe le business. Et tu vois, de toute façon, ça se sent. Je veux dire, on n'a même pas besoin d'être dans les coulisses d'une banque pour sentir qu'il y a des gens qui mettent de l'oseille dans le parfum. Qui aurait pu mettre cette oseille dans n'importe quoi en fait. Eux, ils s'en foutent. Donc il faut que ça rapporte. Et puis c'est une logique de business. On n'est pas là pour les accuser. Ouais, mais le parfum, tu t'en fous. Mais c'est le business. C'est le business. Moi, j'achète parfum de Marly. C'est pas pour purifier les jus avec un filtre et obtenir des nouvelles compositions beaucoup plus raffinées. Ouais, et le mec, il sait pas son boulot. Maintenant, il va faire cartonner encore plus Parfum de Marly, point. Et si c'est un échec, ben, il fait la passe. C'est du business.
Exactement. Exactement. C'est un point intéressant, mais je pense que malgré tout, il faut quand même rappeler à tout ce marché-là que la niche, ça repose sur, qu'il soit vrai ou faux, mais ça repose sur une idée qu'on se fait de l'artisanat. Et malgré tout, le client, il est censé payer un certain prix parce qu'il achète un artisanat. Il achète un truc qui a une certaine valeur, qui a de l'investissement humain dedans, dans le produit qu'on se fait. Donc tu peux vendre du faux artisanat, tu peux vendre des discours qui ne correspondent pas à la réalité, etc. Ça, c'est pas un souci. Mais malgré tout, puisqu'on a des marques qui réussissent à le faire et qui ont réussi à le faire pendant une certaine période, il faut quand même garder cet ADN-là. Il ne faut pas travestir en fait ce secteur-là et le tuer. Et je pense que les groupes, etc., peuvent continuer à faire de l'argent, à créer des marques qui deviennent démentielles, qui ont des tailles énormes. Et en plus, tu as des groupes qui gèrent bien leur truc, même si on peut questionner les évolutions de qualité, etc., chez Byredo. Mais quand tu vois le positionnement de la marque, la communication, c'est hyper bien fait.
Franchement.
Byredo, c'est un des plus bels exemples. Vraiment,
Ah ouais,
t'aimes, t'aimes
ouais,
pas,
vraiment, c'est
c'est impeccable.
nickel.
Une image qui se développe, une marque qui est capable de devenir très très grosse, et peut-être un jour de rivaliser avec les plus grosses marques de parfums en termes de revenus et d'aura, entre guillemets, mais qui garde son ADN très pop, très je me mélange à plein de cultures. Très actuel aussi en faisant des collaborations avec des artistes, machin. Au final, l'idée de départ, t'as l'impression qu'elle est toujours respectée, elle a juste pris plus d'ampleur. Et surtout, la marque a
Exactement.
pris du temps à se développer. Ça s'est pas développé du jour au lendemain. Ça a pris du temps, ça s'est fait en gradation. Mais voilà, je pense qu'il faut juste respecter le secteur dans lequel on est. Et je faisais le parallèle tout à l'heure avec l'œnologie. En fait, c'est un marché dans lequel les industries qui investissent dans ce marché-là, savent que si tu détériores la qualité, tu perds tous tes clients. Parce que l'essentiel des mecs qui consomment ça, ils ont une jugeote. Et la parfumerie, c'est pareil. Le client qui s'intéresse à la niche, il doit juger son produit. Parce qu'à la fin, c'est lui qui ramène l'argent, c'est lui qui paye. Donc tous ces groupes, machin, on peut entendre l'argent, tout ça. Tous ces chiffres-là viennent de l'argent des gens qui achètent du parfum. Et aux gens qui achètent du parfum, de s'éduquer sur ce qu'ils consomment et de forcer ces groupes-là à maintenir un standard de qualité. C'est le client qui est
Exactement.
roi dans cette histoire. Mais c'est au client de s'éduquer et de ne pas tolérer les trucs qui vont dans tous les sens ou les trucs qui n'ont pas de sens, etc. Tout à l'heure, on citait Beaufort, etc. Mais un bon exemple, c'est Nasomato. Nasomato, ça se vend hyper bien et tu as toujours cette DA un peu de Gualtieri qui reste toujours assez respectée. C'est une marque qui fait beaucoup de chiffres. Nasomato, c'est une des. Black Afghano, fait partie des best-sellers du marché.
Ah oui. Clairement, hein. C'est un carton, Black Afghan.
Ouais. Donc, tu peux conserver ce truc-là. T'es pas obligé de détériorer une marque pour la faire grandir. Tu peux respecter ce truc-là, mais c'est surtout, à la fin, ça reste au client, au consommateur de s'éduquer et de juger ce qu'il achète. Et de pas, entre guillemets, soutenir un produit de merde et mettre $200 dedans.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. De toute façon, j'ai toujours été là-dessus. Tu vois, plus tu vas éduquer la masse, plus la masse finalement va faire un contrepoids. C'est juste que le poids en face, voilà, le poids du marketing, c'est connu, quoi. Tu vois, quand en face de toi, tu as L'Oréal, Estée Lauder, LVMH, bon, c'est pas simple, quoi, tu vois. Mais bon,
Ouais.
pas de
Ah, mais
problème,
je
quoi.
pense que dans le cas de la niche, il y a plusieurs éléments qui se mélangent, tu vois. Parce que de base, le public de la niche, c'est un public de connaisseurs. Même maintenant, avec les réseaux sociaux et la hype, et le désir d'une certaine catégorie de gens de vouloir se démarquer, ben, ça a mis de la lumière sur la niche. Et en fait, tu as une partie du public eux, ils sont venus par la hype. C'est pas des connaisseurs, tu
Oui,
vois.
exactement. Bien sûr. Bien sûr.
Donc, à un moment donné, il y a du potentiel, il y a moyen de se faire des thunes. Donc, bah, les marques vont développer des trucs pour ces gens-là, tu vois.
Bah oui.
Il y a des petits malins, ils sont arrivés. Ah, on peut faire quelque chose de cette hype-là. Ok, bon, bah, on va faire des parfums ou on va faire des marques directement, tu vois.
Crivelli.
Voilà.
Ah, c'est ça, c'est juste, c'est très juste.
Ça m'étonnerait pas de les voir se faire acheter.
Non, sûr, sûr, ah, sûr.
Oui. Bah, en tout cas, c'est
Non,
propre, c'est bien présenté.
il y a un gros effort de vente, les mecs veulent vendre, quoi, je veux dire.
Ouais.
C'est du. Non, non, c'est clair, c'est clair. On est à fond dedans.
Ça devrait servir de leçon au...
Bah, à tout le monde,
à tout le monde,
à
à
toute la
tout
niche, à toute la niche, à
le monde.
toute
Ouais,
la
encore plus
niche.
si vous faites un truc de qualité.
Exactement, il y en a qui se cassent le cul à faire des trucs de qualité et au final, bon ben.
C'est toujours la même chose, c'est l'intention, quoi. Tu vois, tu veux faire quoi avec tes parfums? C'est tout, tu vois. Je veux dire, t'es pas obligé de vouloir faire des millions. Moi, je te comprends, il n'y a pas de souci. Et il y en a que leur politique, c'est surtout pas faire en dessous de millions, quoi. Bah, et chacun vient avec ses moyens, quoi, tu vois.
Ouais.
Enfin, très bien, mon très cher Sun John, mon très cher Zen. Moi, je vous donne rendez-vous pour une suite, franchement, c'est mignon. Comme ça, on va rentrer dans d'autres groupes, dans d'autres marques, dans d'autres politiques éventuellement. Peut-être des trucs un peu plus poussés, des trucs un peu plus ouais, balèzes en matière de force, quoi. Et puis en attendant, bah, continuez de vous parfumer, tout simplement. De fermer les yeux sur tout ce qui se passe derrière, parce que voilà, c'est compliqué des fois, mais je pense que c'est très intéressant, même pour les mecs qui voulaient se lancer à faire des marques et tout ça, c'est un truc qu'il faut entendre, qu'il faut comprendre. On ne dit pas qu'il faut que tu fasses ça, peu importe, mais c'est à entendre, c'est à comprendre. Voilà, écoutez, on se casse ou quoi?
Ouais, je propose qu'on se casse.
Ciao, ciao.
Vas-y, ciao. À plus.